Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
6h04, jeudi 23 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors ce matin, vous dire qu'on a un ciel qui est généralement nuageux, 21 degrés, avec, ça c'est la situation actuelle, le maximum aujourd'hui devrait atteindre 27. C'est encore très chaud, très humide ce matin, donc 32 pour l'humidex. Et des périodes de vent aussi de 40 à 50 km/h. En soirée, nuageux. Il y a possiblement de la pluie et même des averses qui sont prévues. Et le mercure devrait indiquer autour de 16 degrés pour la nuit. Puis on termine la semaine avec de la pluie demain matin. Quelques averses, ça va cesser en mi-journée. Il y a un dégagement, mais avec les averses, possiblement aussi un risque d'orage. Avec le maximum prévu autour de 21 degrés, ce qui veut dire que ça va se rafraîchir progressivement. Samedi, on prévoit du soleil 21, dimanche, gris, pluvieux, autour de 19. Et c'est un peu comme ça pour la semaine prochaine. Bon, deux événements à surveiller à Québec aujourd'hui. D'abord, le dépôt du projet de loi pour faire en sorte qu'on puisse se débarrasser des manifestants anti-vax devant les écoles et devant les hôpitaux. Ça prend l'appui de l'ensemble des députés pour que ça passe vite. Sinon, ben, il y aura un certain délai. Et je le disais tantôt, c'est une belle patate chaude entre les mains d'Éric Duhaime. Là, on va définir ça comment. Le libellé va être important. On ne veut pas empêcher les manifestations, c'est sûr. Et Duhaime soulevait des questions. Qu'est-ce qui arrive avec les étudiants? Qu'est-ce qui arrive avec les syndiqués du réseau de la santé, les profs qui font des activités autour des écoles pour manifester quand il y a un conflit de travail ou des renouvellements de conventions collectives. Alors, je ne sais pas exactement, on verra plus tard, comment ça va être libellé puis quel sera l'impact. Parce que ce qu'on veut, c'est se débarrasser de ces gens qui viennent se mêler avec les porte-voix de la vie scolaire puis de la quiétude du personnel, par exemple, du réseau de la santé. Aller manifester, mais pas devant les écoles puis pas devant les hôpitaux. Alors, détail de la quincaillerie un peu plus tard. Deuxièmement, présentation du plan du ministre Christian Dubé au sujet de la stratégie, j'allais dire, nationale pour garder dans le réseau de la santé les infirmières, puis l'ensemble du personnel, les préposés, infirmières auxiliaires et autres, puis attirer des gens qui sont partis à la retraite ou au privé. Encore là, pas de détails, il n'y a pas eu de fuite. Pas trop. On sait qu'il y aura des incitatifs, ça a été mentionné. Mais pour le reste, on verra. C'est un peu bizarre parce que je voyais ce matin Radio-Canada qui nous apprend que 16 000 infirmières et infirmières auxiliaires ont été embauchées au Québec depuis 2 ans. Et il y a de nombreux établissements de santé qui ont été capables d'embaucher un plus grand nombre d'infirmières par rapport à celles qui ont quitté. Et en plus, l'intérêt est toujours là dans les universités. On l'a dit au départ, c'est pas un manque réel d'infirmières, c'est qu'on les a pas à la bonne place. Quand je dis à la bonne place, je parle dans le réseau de la santé. Et là, on va voir comment Québec va réagir, mais c'est pas vrai dans toutes les régions, là, parce qu'il y a des pénuries. Il manque d'infirmières un peu plus spécialisées. Les blocs opératoires fonctionnent pas à plein régime. Et hier, la PDG du CIS des Laurentides qui nous disait qu'il y a 500 postes affichés pour lesquels on a un budget, on a du travail, là, qui n'ont pas été comblés. Donc aujourd'hui, il y a ce volet-là. Troisième élément ce matin, c'est évidemment la saga des anti-vaccins. Ils sont pas nombreux, là, mais ils sont bruyants et attirent l'attention. D'une part, et d'autre part, on le voit avec, et on vous le répète depuis des jours, le profil des hospitalisations régulières et aux soins intensifs a complètement changé avec cette nouvelle vague. Dans la presse ce matin, on nous donne un portrait quand même de la Cité de la Santé. Et quand vous regardez justement le profil, c'est assez clair, là. Ce sont des jeunes qui sont plus malades et qui séjournent plus longtemps à l'hôpital. Quelques données, là. La Cité de la Santé comptait 23 patients atteints de la COVID hier matin, 5 aux soins intensifs. Parmi les cas aux soins intensifs, un dans la vingtaine, un dans la trentaine, deux dans la quarantaine, puis le plus vieux était dans la soixantaine. 18 autres patients hospitalisés étaient également dans la trentaine. Des gens non vaccinés ou pas vaccinés adéquatement. Et il y a un radiologue de l'hôpital Cité de la Santé, le docteur Simon Blais, qui dit « Si j'avais un message à passer aux gens non vaccinés, c'est que c'est réel. Et les pires radiographies qu'on voit sont ceux qui ne sont pas vaccinés. » Et il dit, je le cite encore, « Tout le monde peut faire une pneumonie, mais souvent ça va toucher seulement une partie des poumons. Et avec la COVID, ça touche les deux poumons et plus de 50 % des poumons. Donc, c'est énorme comme atteinte. Bien sûr, des gens plus jeunes vont peut-être s'en sortir par rapport à des gens plus vieux, des gens plus vulnérables, mais ils vont traîner à l'hôpital plus longtemps, puis ils vont occuper des lits dont on aurait besoin pour soigner d'autres types de patients. Alors, on le voit, un, que la vaccination fonctionne, puis que deux, ceux qui sont à l'hôpital, c'est intéressant, c'est voir la réaction des gens qui sont soignés, puis des proches qui réalisent là, que c'est pas une vue de l'esprit être frappé par la COVID, puis que même si t'es en santé puis jeune, tu peux dans certains cas te retrouver à l'hôpital, cloué à un lit pour un bon bout de temps. Et ça m'amène à vous parler de Guillaume le Métis Vierge. Alors, mes collègues de la presse, Hugo Dumas et Patrick Lagacé, nous expliquent ce matin que Guillaume le Métis Vierge est un anti-vax. D'une part, il s'en cache pas trop. Et en même temps, ça a un impact sur sa carrière. Un, il ne pourra pas réaliser les épisodes de District 31. Il fait ça depuis, je pense, c'est 2019. Puis il fait partie de la rotation des réalisateurs. Parce qu'un réalisateur, ben, ça travaille avec des acteurs sur un plateau de proximité. Et on l'a tassé. T'as des règles sanitaires. C'est pas facile de tourner. Puis rappelons-nous, là, les premiers épisodes de District 31, quand ça a été autorisé, des scènes tournées différemment, puis de la distance, puis bon. Il y a des protocoles sanitaires extrêmement sérieux, rigoureux, qui sont imposés. Alors, lui, il veut pas se faire vacciner, mais ils ont dit, regarde, tu pourras pas réaliser les épisodes. C'est pas confirmé par Fabienne Larouche, mais disons que nos deux collègues de la presse ont eu vent de ça, et il pourra pas le faire. Pour ce qui est des autres émissions, comme par exemple les chanteurs masqués, ben là, la production est, pour ainsi dire, terminée. Et il semble qu'il avait respecté les règles sanitaires. Et pour ce qui est d'une autre émission pour laquelle il travaille, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire la promotion si on s'aimait. Alors, il reste, semble-t-il, des fils attachés au niveau de la promotion. Puis on sait que les grands diffuseurs vont imposer le passeport vaccinal à tous les employés. Puis ça comprend les artistes, là, ça comprend des visiteurs à partir du 1er novembre. Des modalités restent à être précisées. Alors, il va faire quoi, Guillaume le Métis Vierge? Puis l'autre question, c'est Hyundai. On sait que les commanditaires n'aiment pas se retrouver avec des porte-paroles qui sont dans une controverse. Parce qu'en plus de pas être vacciné, ça a l'air que c'est essayé deux fois dans des restos en disant qu'il était un peu spécial. Peux-tu y aller pareil? Pouvez-vous me réserver une table? Puis t'es connu, tu t'appelles Guillaume le Métis Vierge. Puis tu te dis, tu es moyen d'eux, hein? Ça a l'air que c'est fait dire non deux fois. Alors, il va être intéressant de voir la réaction de Hyundai. Pour l'instant, lui n'a pas commenté. C'est pas quelqu'un là, qui écrit à la tonne sur les réseaux sociaux. Là. C'est pas Anne Casabonne version gars. Là. Mais il paraît qu'il essaie de convertir aussi les gens à renoncer au vaccin en disant que c'est une opération de lavage de cerveau. Et il y a une autre école aussi qui a été forcée de fermer ses portes, l'école primaire Saint-Émile à Montréal. C'est la troisième école cette semaine. On parle pas d'une classe, on parle de l'école au complet qui est fermée temporairement parce qu'il y a éclosion de COVID. Hier, je sais que mon collègue Patrick a parlé, Patrick Lagacé, avec une mère qui a fait des recherches. Puis il semble, puis là, il faut y aller avec, disons, prudence, qu'une enseignante complotiste, anti-vaccin, qui elle-même a été contaminée, serait peut-être à l'origine de cette éclosion. Puis là, c'est pas long que la chaîne s'engage. Mais c'est pas confirmé par personne. Mais c'est une enseignante qui, elle, très active sur les réseaux sociaux et qui dénonce la vaccination, le port du masque et toutes ces mesures-là. Donc, ça va être fermé pour quelques jours. En principe, le retour devrait se faire lundi 27 septembre. Puis on recherche également l'homme qui a frappé cette vaccinatrice dans une pharmacie. Quand vous lisez les détails de ça, on vous en parlait hier matin, là, ça montre pas juste un anti-vaccin, là. Ça montre un gars probablement extrêmement violent, là, par son tempérament. Puis là, tu sais, de dire « ma femme a été vaccinée sans son consentement à lui, à elle, à... » Tu sais, le freak contrôlant, là, capable de brasser quand on l'écoute pas. Fait que c'est pas juste une histoire de vaccination. Ça doit cacher peut-être une relation de couple assez spéciale. Et puis un coup d'œil vers l'Alberta. On a actuellement 1000 patients dans les hôpitaux. Si vous faites le ratio avec le Québec, là, ce que ça voudrait dire, là, ça serait une explosion. Et les soins intensifs en Alberta sont occupés à 90 %. Et là, ils sont en train, depuis déjà quelques semaines, de penser à ce protocole de triage pour les cas critiques. Si jamais on atteint 100 % de la capacité, comment on trie? Qui on garde? C'est pour qui l'appareil? C'est pour qui le lit? Et on a déjà jonglé avec des scénarios comme ça au pire de la crise ici. Mais là, l'Alberta est confronté à ça. Je vais vous parler de la DPJ. Rapport qui nous montre quoi? Que les listes d'attente à travers le Québec débordent. Il n'y a pas une augmentation de signalement, là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que plus de 740 enfants sont dans l'attente que leur dossier soit traité à Montréal. 740 enfants. Vous connaissez la réponse. C'est un manque de personnel. Je reçois beaucoup, mais vraiment beaucoup, de témoignages d'intervenantes de la DPJ. Les cas sont lourds. Les cas nécessitent un plan d'intervention, je dirais, où plusieurs professionnels, en principe, doivent être impliqués. On n'a pas le temps, on manque de ressources, on manque d'intervenantes, on manque de professionnels. Et c'est clair que ça retarde le traitement des dossiers. Il y a 500 signalements de moins. Si vous voulez mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, 500 signalements de moins pour une période d'un an. Puis rappelons-nous qu'on a une période aussi de confinement dans ça, puis on ne sait pas trop ce qui est arrivé, puis est-ce que ça a retardé justement des cas où on est des... En fait, il y a des cas qui sont passés sous le radar. Les cas d'abus corporels, de mauvais traitements psychologiques, puis des cas graves de négligence sont à la hausse. Sérieusement, si on veut se regarder puis se dire la vérité, là, on a un méchant problème. On a eu le rapport de la commission Laurent, mais là, on attend les effets positifs. Je veux bien là, que ça ne se règle pas en criant lapin, là. Mais sérieusement, là, des enfants dont l'avenir est compromis, où il y a une certitude, ils ont besoin d'un plan qu'on n'est pas capable de leur donner. On les place en attente. Ça fait des années que c'est comme ça. Et ça ne s'améliore pas. Je vais parler avec la nouvelle directrice nationale de la DPJ. C'est un poste qui a été créé justement dans la foulée du rapport Laurent. C'est quoi le plan de match? Je m'en cache pas, là. Ces gens sont à l'écoute ce matin, là. Je vous la lance. Fait quoi, là? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on va annoncer un plan pour le réseau de la santé. Allez-vous développer un plan pour la DPJ, pour amener du monde, garder du monde? C'est à suivre. Dossier Desjardins. Ça, c'est un de mes dossiers préférés, vous le savez. Alors, hier, il y a un courtier hypothécaire de Québec qui était suspecté et qui est toujours suspect dans l'affaire du vol de données, qui a été déclaré coupable d'avoir acheté une liste de 150 000 à 200 000 noms de clients sans évidemment leur consentement. Alors, vous faites la chaîne, t'as le voleur à l'intérieur de Desjardins qui est capable, de façon extraordinaire, de copier tout ça sur des clés USB, puis il vend les informations, puis les informations sont précises, là. C'est pas juste un nom, là. C'est des détails sur le compte hypothécaire de chacun des clients pour être capable de les cibler. Ça a l'air que ça coûtait une pièce pour les 50 000 premiers noms. Puis après ça, c'était à 40 sous. Ça lui a coûté au total 100 000. Et tu avais le solde hypothécaire, le taux d'intérêt du prêt, les dettes, le crédit, les primes d'assurance, tout le détail, là. Et en plus de ça, ce courtier qui doit travailler dans l'intérêt, évidemment, de son client et de ses clients, ben lui, il avait trouvé une façon de faire en sorte que son entreprise personnelle accordait des prêts directement à certains clients. Fait qu'il touchait les frais de commission, puis des intérêts, puis des frais de gestion. Alors, il s'est fait taper sur les doigts. Mais c'est une pinotte, là. Puis on va parler avec Maître Denis Galland tantôt. Parce que tout le dossier Desjardins reste entier. Puis j'ai pas besoin de vous dire que ça traîne, que c'est long, que Desjardins n'a pas l'air de collaborer trop. Eux nous disent le contraire, mais quand vous entendez des bruits de feuilles autour de l'enquête, bien, compliqué. Puis Desjardins se protègent de derrière. Puis l'image, bien important avec le président Guy Cormier, l'image de l'institution. Pour avoir de leur parler de ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis là, on remonte la filière, là. Puis non circule. Puis il n'y a personne qui est encore accusé. Dans Le Devoir ce matin, on parle du débat autour de la loi 96 qui vient renforcer le français au Québec. Il y a plusieurs angles. Je vous en donne deux là, rapidement. D'abord, il y a la présence à Montréal d'étudiants étrangers qui viennent ici, qui parlent anglais et qui changent le visage de la métropole. L'accès au cégep également anglais. Il n'y a pas de restriction. Le gouvernement de la CAQ a dit on va faire en sorte que les admissions vont être plus contrôlées, mais il n'était pas question de l'interdire, comme le PQ, par exemple, l'a proposé. C'était une des idées véhiculées par mon ami Pierre Curzi, de dire vous poursuivez votre parcours en français, même au collégial. Et donc, il y a ce volet-là que plusieurs présentent comme l'angle mort, si on veut, c'est le titre du Devoir ce matin, de l'anglicisation de Montréal. Alors, puis d'un autre côté, vous avez des anglophones qui disent, écoutez, ben oui, il y a des gens qui ne parlent qu'anglais, mais il y a beaucoup d'anglophones qui sont bien à Montréal. Les plus têtus, les plus butés ont quitté souvent depuis longtemps. Et dans le fond, vous voulez protéger le français, ce qui est très bien, mais on ne veut pas que nos droits soient réduits, puis en même temps, comment vous allez empêcher? Puis c'est un angle qui est intéressant, là. L'attrait de l'anglais chez les francophones. Pour les films en anglais, pour la musique en anglais, combien vous avez de groupes qui chantent en anglais, composés de francophones, pour qui la consommation de la culture passe par l'anglais? Tu ne peux pas empêcher ça, tu ne peux pas contrôler ça. Montréal, c'est une ville, une grande ville, et ça attire des gens de tous les horizons. Puis, je connais plein d'artistes, moi, qui, si vous ouvrez demain matin leur liste de musique, vous allez découvrir qu'il n'y a pas beaucoup de franco là-dedans. Puis ça fait partie des choix, ça fait partie des goûts. Alors, il y a quand même une volonté, puis il faut dire que le ministre Jolin Barrette mène ça assez rondement. Et je dirais avec doigté, parce que c'est délicat, là, parce qu'on est dans les susceptibilités. Puis juste pour finir là-dessus, vous regarderez dans le journal de Montréal ce matin, les délinquants du français, 10 bannières qui ont accumulé des plaintes concernant la langue. Alors, vous avez Tim Hortons, Walmart, Dollarama, Pizza, PFK, IGA, Métro. Métro qui aurait de la misère avec le français, Canadian Tire, McDonald's et Domino's Pizza. Alors, c'est sûr que des grandes bannières comme ça font l'objet de plus de plaintes. Donc, dans le journal, vous avez la liste complète.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On n'a jamais vu, et c'est préoccupant, des listes d'attente aussi élevées à Montréal et dans d'autres régions du Québec. C'est pas moi qui dis ça. C'est la DPJ du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Un délai d'attente actuellement, dit-on, de 15 à 17 jours. On a présenté hier l'espèce de bilan annuel. Et j'en parle avec la directrice nationale de la DPJ, poste créé dans la foulée du rapport Laurent, Mme Catherine Lemay. Mme Lemay, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Juste qu'on regarde les chiffres ensemble dans un premier temps. Est-ce que je comprends bien que le nombre de signalements a légèrement diminué, mais que les cas retenus sont en hausse?
Oui, vous avez bien compris.
Est-ce que c'est une tendance qu'on voit depuis quelques années? C'est exceptionnel? Comment vous l'analysez?
Bien, vous comprenez que la dernière année pandémie là, a un peu brouillé les cartes, je dirais. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des signalements, on est revenu à peu près au même niveau qu'il y a deux ans et l'année passée à peu près à la même date. Par ailleurs, ce qui s'est détérioré, et vous l'avez dit, c'est le nombre d'enfants en attente d'être évalués. Et là-dessus, ça a un lien direct avec un point qu'on a parlé ensemble quand vous m'avez invité la première fois, c'est-à-dire le manque de main-d'œuvre spécialisée. Et ça, c'est aussi important de s'occuper de ça que s'occuper de mettre en œuvre les recommandations de Mme Laurent.
OK.
Et je vous l'avais dit d'ailleurs.
Oui. Il y a combien d'enfants au Québec qui attendent pour être évalués?
En date de la dernière donnée disponible, la plus à jour, on a 3335 enfants qui attendent d'être évalués. Je vous dirais que la bonne nouvelle, s'il y a, parce que en ce moment là, faut se raccrocher à des points positifs pour être capable de construire le reste. Donc, depuis le 1er août, c'est-à-dire depuis le moment où on a mis la prime spéciale que Dr Carman est allé négocier avec le Conseil du Trésor, on a 17% de moins de ce chiffre-là. Ça veut dire que au 1er août, là, on était 17% de plus. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que depuis la prime du 1er août, on a 30% de plus de capacité réelle pour faire face à ces listes d'attente-là.
OK, mais pour que ça soit bien clair pour les gens, oui. Ces enfants-là qui attendent, ils attendent en moyenne combien de temps?
Bon, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Vous me permettez de le dire aussi. C'est pas parfait, mais c'est amélioré. Malgré le fait qu'on a plus d'enfants sur la liste d'attente, depuis deux ans, on a diminué de près de 20% les délais de traitement de ces dossiers-là. Ça veut dire entre le moment où on rentre un signalement puis le fait qu'on décide, OK, sécurité, est-ce que il s'en va en évaluation ou pas, on a diminué de 30 à 25 jours.
OK.
Ce qui est quand même une bonne nouvelle.
De 30 à 25 jours. Ça prend 25 jours actuellement,
en moyenne.
Là, pour évaluer puis déterminer quel genre d'action on doit faire.
Moyen, oui. C'est pas parfait, là.
Non.
Loin de moi l'idée de dire que c'est parfait, mais la pente a pris la pente descendante.
Je vais vous poser une question, c'est mon inquiétude. Parce que pour avoir des beaux chiffres, là, on peut fermer des dossiers. Puis j'ai déjà vu ça dans d'autres secteurs. Je dis pas, j'accuse pas personne, là. Mais tu comprends, là, on a un problème, il faut fermer des cas, fait que vite à la vapeur, et on passe à un autre appel.
Monsieur Arcan, je travaille depuis plus de 30 ans en protection de la jeunesse. C'est ma mission d'envie, les enfants. Fait que ce que vous dites là, je dis pas que ça peut pas traverser l'esprit. Ce que je dis, c'est que les enfants qui sont en attente d'être évalués, on va prendre le temps de bien regarder de quoi ils ont besoin. S'ils ont besoin des services de protection, ils vont les avoir. Mais s'ils ont besoin d'autres choses, il faut s'assurer que le d'autres choses est présent. Et ça, c'est aussi important de travailler sur les listes d'attente que travailler sur les autres services dont ces enfants-là ont besoin. Parce que les services spécialisés, là, c'est pas du jour au lendemain que les enfants en ont besoin. Il faut être capable de plus s'occuper des enfants quand les problèmes sont plus petits. Et ça, à travers les priorités qu'on a retenues pour la première année du plan de mise en œuvre du rapport de Mme Laurent, ça va être dans les priorités.
OK. J'ai posé, en fait, je pose tout le temps cette question-là ces jours-ci. Là. Il vous manque combien d'employés à travers le Québec à la DPJ là, pour faire face à la demande des services?
Bon, votre question est large parce qu'il y a plusieurs secteurs à la DPJ. Mais si on se concentre sur des personnes pour venir évaluer, ça, c'est une autre chose qu'on a. Maintenant, on est capable d'avoir la capacité réelle à toutes les semaines. Donc, le nombre de personnes qui sont là pour évaluer par rapport au nombre prévu, je vous dirais à l'œil là, qu'il en manque une centaine, plus ou moins, dépendamment des semaines. Une centaine, ça, c'est pour atteindre le nombre de postes réels. Mais vous comprenez qu'il y a des absences, il y a des femmes qui tombent enceintes. Donc, il faut aller en surcapacité. Donc, une centaine pour être équivalent avec le nombre de postes, mais probablement 150, peut-être plus. On va prendre tout le monde qui va venir travailler. Et ça, là, il faut travailler sur notre attraction, une fois qu'on les a attirés, sur la rétention. Puis là, vous allez me demander, Mme Lemay, qu'est-ce que vous allez faire? On se parle juste une couple de semaines trop vite pour ça, parce que Dr. Carman va sortir officiellement le plan, on va le rendre public, puis après ça, vous allez voir des moyens concrets qui viennent s'adresser à ces problèmes-là.
Je vais vous résumer, et pour moi, c'est pas anecdotique. Le courriel, la lettre, je devrais dire même que j'ai reçu d'une travailleuse, une jeune travailleuse de la DPJ, qui œuvre au sein de la DPJ depuis 2 ans. En résumé, elle fait ça par passion, pour ne pas dire vocation, le mot est peut-être périmé maintenant, mais c'est vraiment une passion. Et ce qu'elle m'écrit, c'est son désespoir de ne pas avoir du temps pour s'occuper de ses enfants, de ne pas avoir les ressources pour les aider à grandir puis à régler leurs problèmes, d'être toujours à la vapeur parce que les dossiers s'empilent sur le bureau parce qu'il manque de monde, de ne pas savoir quoi dire aux parents parce que tel service qui est demandé, qui est même parfois ordonné par un juge, on n'est pas capable de le fournir. Elle m'a écrit ça il y a 2 semaines. Donc, ce n'est pas une histoire du passé. Elle est encore là-dedans. Et elle s'épuise à faire ça.
Écoutez, vous en recevez, j'en reçois aussi. J'ai des témoignages au quotidien. Ça ne me fait pas plaisir de recevoir ça, mais ça me rend encore plus convaincue que ces jeunes-là, qui ont au départ un désir de faire la différence dans la vie des enfants, ben il faut s'assurer d'abord qu'on leur donne le soutien pour qu'ils apprennent le métier. Hein, tu œuvres pas quand ça fait 2 ans que tu travailles comme ça fait 15 ans. Mais en plus, c'est vrai, on a besoin de travailler probablement différemment, puis ça, je veux pas m'avancer trop parce que ça sera dans le plan aussi, mais ça prend plus de monde aussi. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a des responsabilités à s'acquitter, ben faut s'assurer qu'on met tout le monde à contribution autour. C'est pour ça que, dans le moment, moi, je travaille extrêmement fort pour m'attacher avec tous les autres réseaux, la famille, l'éducation supérieure. Il faut que le cercle de bienveillance dont parle Mme Laurent, c'est ça, là. C'est aussi s'assurer que les décideurs sont capables de donner les moyens des ambitions à ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Et c'est réel ce que vous décrivez de la jeune fille, mais moi, mon souhait, c'est que dans les prochaines années, on soit capable de plus soutenir ces gens-là puis qu'ils soient en nombre plus important et surtout qu'ils soient reconnus pour le travail qu'ils font à tous les jours. Et ça, on y travaille également.
Est-ce que c'est vrai que les cas d'abus physiques, corporels, mauvais traitements, ça peut être des abus psychologiques, puis des cas assez graves de négligence, ce sont des cas qui sont à la hausse?
Bien, vous avez lu comme moi probablement là, les études qui ont été faites sur la pandémie et les effets sur les enfants. Des familles qui sont confinées, qui sont déjà vulnérables, avec des enfants qui ont pas de contact ou très peu de contact avec le monde extérieur, ben ça crée des situations explosives. Donc, effectivement, on est en train de documenter ça. Et ça aussi, il va falloir s'attaquer à ça. Il y aura aussi des actions spécifiques là-dessus. Et une revision, dans le fond, de tout l'encadrement de ces problématiques-là. Mais encore, je me répète, avant que ça arrive à des problématiques telles, il faut être capable de venir intervenir et soutenir les parents et, s'il le faut, mettre les enfants dans un lieu sécuritaire pour éviter que ça se produise.
Parce qu'on parle beaucoup du réseau de la santé là, comme tel, puis la difficulté de recruter puis de garder, la situation des centres de soins de longue durée. Mais je lisais ça hier, là, puis entre vous et moi, c'est un dossier qui non seulement m'intéresse, mais me touche. Et je me dis qu'en 2021, on ne soit pas encore capable d'avoir une structure, puis je vous blâme pas vous, là, vous venez d'arriver, là, mais qu'on soit pas capable d'avoir une structure qui soit en mesure de traiter rapidement le cas ou les cas d'enfants qui sont potentiellement victimes de négligence, d'abus, des enfants qui ont besoin qu'on leur donne des outils pour partir dans la vie. Parce qu'on le sait tous, si tu pars tout croche, la capacité de te redresser est quand même pas mal plus faible. Puis je dis pas que c'est un scandale de société, mais sérieusement, là, je me dis, ça n'a pas de bon sens qu'on ait 3000 enfants qui attendent, puis ça n'a pas de bon sens que des intervenantes subissent cette pression-là pour être capables d'éteindre tous les feux qui se présentent devant elles. Bonne chance.
Ben, j'ai pas juste besoin de chance. J'ai besoin de gens.
Vous avez besoin d'un ministre
pour régler les problèmes.
Vous avez besoin d'un ministre qui est mieux d'avoir un maudit bon plan.
On y travaille, M. Arquette. Et ça, ça prend du temps, faire un bon plan, puis surtout un plan qui va donner des résultats. Et ça, je tiens la barre haute là-dessus, je peux vous l'assurer.
Merci, Mme Lemay. Bonne journée.
Merci beaucoup, M. Arquette. Bonne journée à vous aussi.
Catherine Lemay, directrice nationale de la DPJ. Puis moi, je veux aller au-delà des chiffres, là. Parce que, tu sais, on peut dire, voici le tableau, je comprends là, que ça prend des références, mais quand même. Hey, on parle d'enfants, là. On parle d'êtres humains, là. Puis le départ dans la vie, là. S'il est raté, s'il est perturbé, si ces enfants-là... Puis je comprends, là, que l'État intervient en mission de sauvetage. On fera pas ce matin toute l'histoire de la maltraitance puis de la négligence au Québec, là. Puis comment on attaque ça de front? Ça fait longtemps qu'on dit ça, avec des approches. Je pense au docteur Julien, puis je pense à d'autres également. Mais c'est pas chic. Je pense que c'est comme ça qu'on finit.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je vous lance ce matin avec une référence. En Alberta, il y a à peu près 1000 patients qui sont hospitalisés en raison de la COVID. 90 % des lits de la province aux soins intensifs sont occupés, ce qui, pour ne faire un dessin, met énormément de pression. Et ils sont même en train d'élaborer une espèce de protocole pour déterminer, si jamais on défonce, là, qui on peut et qui on doit soigner. Évidemment, au Québec, on n'en est pas là. C'est une bonne nouvelle. La quatrième vague frappe, les cas sont élevés. Mais avec la pénétration du vaccin au sein de la population, on se rend compte qu'un, le vaccin fonctionne, et que deux, même des gens qui développent la COVID et qui sont doublement vaccinés ont des symptômes plus légers. Il y en a quand même, très faible pourcentage, bien sûr, qui se retrouvent à l'hôpital. Alors, qui sont les gens qui sont couchés à l'hôpital, frappés par la COVID? Je vais faire le point avec le docteur Simon Blais, qui est radiologue à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Docteur Blais, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Je comprends, Dr. Blais, là, si j'avais à résumer, le nouveau profil des patients souffrant de COVID et hospitalisés, ce sont des gens plus jeunes et non vaccinés.
Effectivement, c'est ce qu'on remarque. Dans les premières vagues, bon, c'est certain qu'on voyait des personnes plus âgées. Et là, dans la quatrième vague, moi, en tant que radiologue qui interprète les examens de ces patients-là, ce que je remarque, c'est que les gens sont plus jeunes et plus malades. Comme vous avez pu voir probablement dans l'article, là, nous, on voit pas les patients physiquement, mais on interprète l'imagerie. Et ce que je remarque, c'est vraiment ça. L'atteinte est plus sévère, les patients sont plus jeunes et ces patients-là ne sont pas vaccinés pour la grande majorité.
Donc, il y a des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine.
Tout à fait. Puis, c'est vraiment la différence avec la première vague. D'ailleurs, moi, j'ai parlé avec un infectiologue de mon hôpital, le docteur Eck, et je lui ai demandé, moi, c'est ce que je constate en radiologie, est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain? Et effectivement, ça concorde. Là, les derniers chiffres, comme vous avez vu à la Cité de la Santé, 4 des 5 patients qui étaient hospitalisés en date d'hier étaient en bas de la quarantaine, ou quarantaine et moins. Là. Donc, c'est assez inquiétant.
Est-ce que vous savez si ce sont des patients qui ont un historique médical, des gens qui sont en relativement bonne santé? En savez-vous un peu plus sur ces patients-là?
Bon, nous, quand on interprète les examens, on a souvent les antécédents des patients Et pour la plupart, quand les patients sont très jeunes, comme dans la vingtaine, nous, on remarque qu'ils n'ont pas nécessairement eu d'examen avant. Donc, la première radiographie, par exemple, des poumons qu'ils ont, c'est une radiographie pour leurs symptômes de COVID, puis on remarque que leurs poumons sont très atteints. Certains ont probablement des comorbidités, mais pour la plupart, ils n'ont pas d'antécédents radiologiques que nous, on peut constater.
Quand vous dites que la COVID est plus sévère, qu'ils sont plus donc hypothéqués, pouvez-vous me donner, je ne sais pas moi, un exemple de ça par rapport à une pneumonie normale, disons, classique?
Oui, donc tout à fait. Donc nous, ce qu'on remarque, c'est que quand la pandémie a commencé, on n'était pas habitué à voir ces manifestations radiologiques. Maintenant, à avoir vu plusieurs centaines et dizaines de cas, on remarque qu'il y a un pattern, si je peux dire, spécifique. Puis souvent, la pneumonie, elle est des deux côtés. Elle touche parfois plus de 50% des poumons, ce qui est différent des pneumonies entre guillemets classiques qu'on voit habituellement, des pneumonies bactériennes simples. Donc l'atteinte, elle est plus sévère chez des gens qui sont vraiment, encore une fois, plus jeunes. Avant, si on voyait des pneumonies aussi sévères, c'est des patients qui avaient des comorbidités ou qui étaient immunosupprimés ou des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas durant cette quatrième vague et depuis l'apparition du variant Delta.
Alors, dites-moi, parce que la plupart de ces patients-là s'en sortent, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes, ils sont plus longtemps à l'hôpital, mais ils vont avoir des séquelles, évidemment, de la COVID dans les prochains mois, les prochaines années.
Mais tout à fait. Ça, c'est là où on a peu de recul, hein, seulement 18 mois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les patients, nous, on interprète les scans, donc les tomodensitométries de ces patients-là. Donc, on a des radiographies simples, c'est comme une photo des poumons. Et les scans, c'est un peu, si on veut, une vue un petit peu plus précise des poumons. Puis ce qu'on remarque, c'est que les patients qui ont été atteints sévèrement dans les premières vagues, on refait des contrôles plusieurs mois plus tard, puis on voit que les poumons n'ont pas complètement récupéré. Donc, c'est ça qui est inquiétant. À long terme, on a peu de recul, mais on suspecte que les patients qui ont été atteints sévèrement risquent de garder des séquelles pulmonaires de cette infection-là.
Oui, c'est vrai que le profil a complètement changé. Quand vous regardez ces patients-là, je comprends que vous n'avez pas de contact avec eux, mais vos collègues, est-ce qu'ils arrivent à leur parler? Est-ce qu'ils regrettent de ne pas avoir été vaccinés? Avez-vous un peu des échos des gens ou de leurs proches?
Un peu. Moi, les messages que j'ai eus, c'est qu'effectivement, bon, les certaines personnes effectivement regrettent. D'autres, actuellement, sont tellement malades qu'ils sont intubés aux soins intensifs. Des fois, il n'y a pas moyen de communiquer avec eux. Puis souvent, ça déboule assez vite. Les patients, souvent, attendent avant de consulter, arrivent à l'urgence, sont très malades, doivent être pris en charge de façon très urgente. Puis à ce moment-là, ils sont sédationnés aux soins intensifs. Donc, ça va être de voir après, est-ce que ces patients-là, comment finalement, est-ce qu'ils auraient fait les choses différemment là, s'il y en avait eu l'opportunité?
Parfait. Merci beaucoup, Dr. Blais. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Dr. Simon Blais, radiologue à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Et le profil n'est pas différent ailleurs. Là. Et c'est vrai que ça revient constamment quand vous regardez les tableaux. Oui, il y a des gens qui ont été doublement vaccinés, qui ont eu la COVID, mais les symptômes sont pas mal moins sérieux. Et les cas les plus lourds sont des gens qui sont pas vaccinés ou pas adéquatement vaccinés. Puis on sait que le niveau de pénétration du vaccin est très élevé au Québec, mais disons que chez les on avait à faire des catégories, là, des 18-35 ans, c'est quand même là où il y en a le moins, ou en tout cas qui reste le plus à vacciner.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On vous a parlé il n'y a pas si longtemps de Francine Bissonnette, femme qui a été tuée par Daniel Derry. C'était son conjoint. Ça s'est passé à Chambly au mois de juin 2016. Le couple était à ce moment-là en instance de séparation. Et on avait accordé la semi-liberté à Daniel Derry. Il ne faisait pas l'affaire de la famille. Puis on se disait pourtant, seulement après 5 ans de détention. voilà qu'il retrouve une certaine liberté. Ça a été annulé, pas pour toujours. Geneviève Comartin est avec nous, elle est la fille de Mme Bissonnette. Mme Comartin, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a annulé donc cette semi-liberté?
En fait, on m'a téléphoné hier pour me dire que la semi-liberté a été annulée parce que le centre de transition où il devait faire une thérapie a décidé de le refuser. Semblerait-il que ça soit suite à tout le tapage médiatique qu'il y aurait eu à ce sujet. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas reçu la décision écrite encore, mais c'est ce qu'on m'a dit par téléphone.
Ça veut dire qu'il retourne en prison pour un certain temps encore.
Exactement. Donc, pour 90 jours, en fait, on m'a dit que dans 90 jours, il devait se représenter devant la commission avec un nouveau plan de sortie, étant donné que le dernier plan de sortie est tombé à l'eau.
Faut rappeler pour les gens là, qui n'étaient pas avec nous quand on s'est parlé la dernière fois, c'était le conjoint de votre mère, c'était un gars que m'avait décrit comme étant contrôlant, avec un potentiel de violence. Et vous, vous avez même témoigné justement pour éviter qu'il se retrouve en semi-liberté.
Oui, absolument. J'ai témoigné, puis dans le rapport des commissaires qui a suivi l'audience, il semblait avoir bien saisi un peu ce qui se passait, c'est-à-dire que, bon, monsieur avait pas vraiment de remords, il y avait toujours de l'aversion pour sa victime, mais malgré ça, ils ont pris la décision surprenante de quand même lui accorder la semi-liberté, mais avec la condition qu'il aille en thérapie là dans cette maison de transition-là pendant 3 mois.
Quand vous vous imaginez, puis parce qu'on va voir quelle sera la prochaine décision, là, mais quand vous imaginez que ce gars-là va sortir seulement 5 ans, moins de 5 ans, là, de détention après avoir tué votre mère, quoi votre réaction?
C'est incompréhensible, puis je me demande, est-ce que c'est vraiment important dans notre société aujourd'hui de protéger les femmes quand on entend des histoires comme celle-là? C'est pas quelqu'un qui a eu un comportement exemplaire en détention, on est loin de là, mais pourtant, on lui donne quand même sa semi-libération. Bon, ça a été annulé, mais c'est pas à cause d'une décision des commissaires, là. C'est vraiment venu de l'externe. Donc, je me demande vraiment quelle importance on met sur la protection des femmes, la protection de la société là, dans ce système-là.
Ben, on va suivre ça. Merci beaucoup, Mme Comartin. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Geneviève Comartin. Juste rappeler ce que disait Yves Thériault plus tôt cette semaine, suite à une analyse, c'est que ça dépend qui est au pouvoir. Quand on regarde la rigueur des décisions en libération conditionnelle, les conservateurs ont, qui nomment leur monde, là, pensent toujours que c'est indépendant, mais ça ne l'est pas tant que ça, nomment des gens qui pensent comme eux. Tu lèves pas le pied trop souvent, puis t'as tendance à garder le monde en dedans. Les libéraux sont plus ouverts. Ils ont plus tendance à permettre des sorties, puis permettre des libérations conditionnelles. Alors voilà pour ce monsieur-là qui va recomparaître un peu plus tard.
L'essentiel de Paul Arcand.
J'étais un peu étonné de voir ce matin des extraits du reportage qui va être présenté à l'émission Enquête au sujet... Puis tenez-vous bien, là, de femmes autochtones, de femmes noires qui ont été stérilisées sans leur plein consentement. Ça se passe au Québec. C'est pour le moins bizarre. Sylvie Fournier est journaliste à l'émission Enquête. Elle est avec nous ce matin. Sylvie Fournier, bonjour.
Bonjour.
D'abord, étonnement devant ça. Peut-être nous expliquer comment des femmes peuvent être stérilisées sans leur consentement au Québec. Question bien simple.
Non, c'est une question super importante. Puis rassurez-vous, nous aussi, au début de cette enquête, on était surprises, étonnées, sceptiques. Mais bref, ce sont des femmes à qui on propose une stérilisation au moment de leur accouchement. Le plus souvent, ça se présente de cette façon-là. On ne parle pas ici d'un accouchement qui tourne mal, où la vie de la maman est en danger, où le médecin doit intervenir de façon urgente pour sauver sa vie. On n'est pas là, là. Ça, c'est tout à fait légitime. On parle de femmes qui se présentent pour accoucher souvent par césarienne, parfois une césarienne imprévue, donc, à laquelle elles ne sont même pas préparées. Et on leur dit, tant qu'à faire, on pourrait faire une ligature des trompes. Une ligature, c'est, dans le fond, c'est une méthode de contraception rarement réversible. Et on demande à ces femmes-là, dans un moment de très grande vulnérabilité, alors qu'elles ne sont pas nécessairement en mesure de prendre toute la mesure des risques, des options, des conséquences, des bénéfices, de prendre une décision rapide. Et vous savez, le consentement est quelque chose de très balisé au Canada. Il y a des critères pour qu'on s'assure qu'un acte médical est fait avec un consentement libre et éclairé, et ça ne répond pas aux critères d'un consentement libre et éclairé.
Mais si la grossesse est bien passée, si l'accouchement semble bien se passer, bref, il n'y a pas d'indication médicale particulière, pourquoi est-ce qu'on leur propose la stérilisation?
Il peut y arriver des fois où un médecin estime, avec son expertise, qu'il serait risqué pour cette femme-là de ravoir un autre enfant, mettons, par césarienne. Et ça, c'est correct. Il a le devoir de lui dire, c'est pas un enjeu médical ici, c'est un enjeu de consentement. C'est qu'il doit le faire, mais on peut pas le soustraire à sa responsabilité de s'assurer que ce consentement-là est fait au bon moment et de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire?
Mm-hmm.
En fait, c'est que si on a déjà discuté au préalable de ligature des trompes, c'est tout à fait cohérent de le faire en même temps qu'une césarienne, c'est une chirurgie invasive. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Alors, ce qu'on leur dit, très souvent, on leur dit c'est dangereux d'en avoir. Des fois, c'est pas subtil. Des fois, c'est vous en avez assez. Vous en avez 5, 6, là. Il y en a qui se sont fait dire vous allez tomber dans l'alcool, vous ne pourrez pas vous en occuper, ils vont tomber aux mains de l'État. Tout ce genre de commentaires, de situations qu'on a vues dans l'Ouest canadien. Dans les dernières années, il y a des femmes autochtones qui ont dénoncé avoir été stérilisées sans leur plein consentement dans l'Ouest canadien. Il y a eu enquête, il y a eu admission des faits, il y a eu des excuses publiques. Ces récits-là se ressemblent tous. Je vous dirais qu'il y a même des cas où on ne leur dit pas. Il y a quelques femmes qui nous ont raconté qu'elles l'ont appris après.
Attendez, là, on leur dit pas, vous voulez dire qu'on les a stérilisées sans qu'elles le sachent ou en tout cas sans qu'elles le consentent?
Sans qu'elle le sache, parfois, ou je me souviens d'une histoire qui m'a assez frappée, une femme qui me dit, moi, je me souviens pas qu'on me l'ait demandé au moment de mon accouchement. Est-ce qu'on lui a demandé? Peut-être, mais c'est la démonstration parfaite qu'elle n'était pas en état de prendre cette décision-là, si elle était incapable de s'en rappeler après. Mais il y a des femmes qui ne l'ont pas su. Suzy Basile, la chercheuse que vous connaissez peut-être, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les enjeux reliées aux femmes autochtones, a entrepris de documenter cette pratique. Elle est en train de le faire au Québec. Elle est en cueillette de témoignages et elle nous a dit la semaine dernière que déjà, elle aussi, elle est en mesure de confirmer que ça existait, qu'elle a des témoignages et elle a des femmes qui l'ont appris plus tard. Elles ont été hospitalisées, en ressortent, puis n'ont plus d'enfants. Ça, c'est souvent des cas qui remontent à des années plus lointaines, les années 70-80. Et oui, c'est arrivé.
Est-ce que vous savez, parce qu'on parle de femmes autochtones, de femmes noires, mais est-ce que des femmes blanches, parfois issues de milieux plus pauvres, plus difficiles, subissent ce même genre, j'allais dire, d'opération? Bref, qu'on leur met une certaine pression pour ne plus avoir d'enfants.
Je pense que votre question est formidable parce que je soupçonne que la réponse, c'est oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique dont on parle, qui est considérée comme un acte de torture, d'ailleurs, en droit international, elle a été documentée, et ça, moi, je ne le savais pas, elle a été documentée sur tous les continents. Partout sur la planète, on fait des stérilisations sans plein consentement à des femmes, et ce sont largement des femmes autochtones, des femmes issues de minorités visibles. C'est arrivé à des Ouïghours, c'est arrivé à des femmes roms, c'est arrivé à des femmes noires, des femmes autochtones aux États-Unis. Il y a même des programmes d'indemnisation aux États-Unis. On en est rendu là-bas. Juste au Pérou, à la fin des années 90, on a stérilisé 250 000 femmes. La plupart étaient Quechua. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça semble toucher davantage des femmes autochtones, des femmes racisées. Mais ça n'exclut pas, vous avez raison, que des femmes blanches plus vulnérables subissent des pressions ou vivent la même chose.
En tout cas, le Collège des médecins fait un rappel à l'ordre à ses membres en insistant sur l'importance d'avoir un consentement libre, éclairé, puis pas pendant des douleurs ou que la personne n'est pas en mesure là, d'évaluer correctement la situation. On regarde ça ce soir avec grand intérêt. Merci, Sylvie Fournier.
Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée. Sylvie Fournier, journaliste à l'émission Enquête. Avouez que ça saisit un peu d'apprendre que des femmes ont été stérilisées sans avoir donné un plein consentement en toute liberté, pour toutes sortes de raisons, là, de j'appelle ça un peu de manipulation, puis de profiter d'un contexte, mais c'est beaucoup plus large que ce qu'on vient de décrire. Alors ce soir, 21h, enquête est présentée sur Radio-Canada.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.